Multimédia.
Une coproduction Radio Campus Lorraine, RCN.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Multimédia. Moi c'est Liam, on est toujours diffusé sur RCN 97 et Radio Campus Lorraine. C'est sur Station de la Plus, sans oublier le site internet respectif. Multimédia, c'est votre émission politico-médiatique pour mieux vous informer sur vos sources d'informations.
Multimédia.
Il fait chaud, on s'est tous rués vers les salles climatisées de RCN, notamment ce beau studio. Et d'abord, on a Martin, ça va ?
Ben, très 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 bien, et vous ?
Ouais, pas trop chaud climatique comparé à Lille.
Ça ben, non, il fait très bon à Lille, tout va bien.
Il a le droit à sa quotidienne sur Lille.
Et tu manges des frites ici ou pas ?
Et c'est la sauce, elle est ch'ti.
Il fait pas trop froid là-haut.
Mais non, on y est bien.
Je te crois bien. On a aussi Pablo. C'est en 50 déjà.
Eh ben, moi je ne viens pas de Lille, toujours fidèle à Nancy, mais waouh, qu'est-ce qui fait beau dans cette ville qu'on aime tant.
Ah, on adore le soleil. Ah, oui. Tu vas nous charader sur le festival de Cannes, il me semble.
Effectivement, quelques charades sur ce moment qui est fini, je crois, à l'heure où cette émission sera diffusée.
Et qui est un peu particulier en ce moment.
Et qu'on a eu une belle année. Enfin, en tout cas, pas mal de choses à dire, donc petite charade.
Et on a Julien, qui est notre chevalier de notre bonne vieille Noatatis.
Bonjour.
Donc tu nous as préparé des trucs intéressants.
Ouais, j'espère, on verra.
J'espère. Tu sais ce que t'as préparé ou pas?
T'as confiance en toi. Je les ai notés là, il y a deux minutes, j'étais là. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que
bon,
j'ai fait.
Bon, est-ce qu'on est prêts?
Nous sommes prêts.
Au programme, les infos suivies de la définition. Ensuite, en deuxième partie, Martin, toujours en présentiel, gros de manche, qui va nous parler bouquins. Et oui, Pablo n'est pas le seul à connaître l'existence des livres, suivi par des charades supplémentaires. Évidemment, notre cher Motati, ici, qui sont des citations à l'envers. D'ailleurs, lâchons en une tout de suite, si tu veux.
Vas-y.
C'est Macron, ça.
Oui, ça c'est...
Qui est-ce qui dit ? Ah, c'est Faucheur.
Ah, non,
il n'y avait pas l'intonation.
Qu'est-ce qu'il y a comme grande phrase ? Homme est traversé la rue et...
Il a dit ça...
Il dit pas grand-chose, là.
Il y a quelques années. Ça date d'au moins un peu plus de 5 ans.
Ah. Ok, donc c'est en présidentiel, peut-être.
Non.
Oui. Non. Bien sûr.
Un peu plus de 5 ans.
Ah, c'était pendant un débat ?
Mettre la poussière sur le tapis, non, c'est pas ça ?
C'est un débat ou pas ?
Non.
Non, non.
C'est où ?
C'est vraiment dur pour
c'est
truc.
C'est où ? C'est à l'Elysée.
Ah,
c'est
vraiment... nous sommes en guerre ? C'est
nous sommes en guerre.
En guerre.
Oh, waouh.
Wow. Ah,
ça rappelle de mauvais souvenirs. Hein.
Nous sommes en guerre.
Bon, bah, avec l'antivirus, ça risque de revenir en tout cas.
Mais non.
Et je la V2.
Mais d'abord, les infos. Enfin, ensuite. Bouloré, c'est l'actualité principale en ce moment, c'est le statut de Canal+, en tant que financeur numéro 1 du cinéma, enfin d'après eux, qui est en train de vaciller. Suite à la montée de la tribune des armées Bolloré, de nombreux signataires du cinéma, acteurs et scénaristes et réalisateurs, et notamment, il faut que je précise, Alain Chabat, qui est présent depuis 40 ans sur la chaîne cryptée. Alors, dans une mouvance toujours aussi réfléchie, subtile et peu susceptible, Maxime Sada, le PDG de Canal+, a déclaré la création d'une liste noire contenant les signataires de la tribune. Aux dernières nouvelles, deux tiers des sorties cinéma contiennent ses signataires. Ce qui est un sacré coup de chaud pour le groupe qui rivalise avec la canicule. Est-ce que, quand vous avez vu l'info, quelle était votre première pensée ? Est-ce que vous vous êtes dit « putain, ils sont niqués » ou à l'inverse, vous vous êtes dit « ah, ils vont se mettre bien ».
Lesquels ? Les signataires ?
Les signataires.
Bah, c'était sûr qu'ils allaient se faire taper sur les doigts, en vrai. De là à blacklister... Oui. En fait, moi, je suis mitigé. Ouais. Moi, je trouve que c'est une dinguerie de faire ça. Genre, si tu peux pas faire un petit... Enfin, ça dépend. Je l'ai pas lu en entier. Je vois à peu près les revendications et il y a des alarmes intéressantes. Mais, oui. Mais de là à dire, du coup, on bosse plus avec vous.
Moi, je trouve que c'est révélateur, en fait,
voilà.
Du système.
Ouais.
C'est-à-dire que la moindre contestation...
Il n'y a pas de dialogue, quoi.
Non, du tout. Et au sein de ce groupe, et pas que dans le cinéma, on en a déjà parlé souvent ici, dans d'autres thématiques, l'information, etc., sur du divertissement, c'est hyper cadré, il ne faut pas que ça sorte, quoi. Sinon, effectivement, partez, quoi.
De toute façon, on aura l'occasion de parler avec toi en détail, Pablo, vu que tu vas nous faire des charades à ce sujet. Au rapport, depuis la publication du rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public le 5 mai dernier, le débat est clairement relancé autour de trois grands axes, la gouvernance, la direction éditoriale et la viabilité financière du service public. Le rapport est long de plus de 550 pages et il contient 69, lol, recommandations. Mais fournit surtout un diagnostic très dur. Il dénonce un audiovisuel public en crise, jugé trop coûteux, trop fragmenté, parfois politisé, ce qui alimente la polémique sur sa neutralité. Enfin, c'est toujours d'après eux. Parmi les plus grandes pistes, le rapport préconise, en tout cas d'après eux, est-ce que c'est bonne idée, c'est à vous de voir, une restructuration profonde des chaînes avec la suppression déjà de France 4 et de France Télévisions slash, la fusion de France 2 et de France 5 en une grande chaîne généraliste, ou encore la fusion de France Info Télé avec France 24. Le texte appelle aussi à réaliser plus d'un milliard d'euros d'économies sur les 4 milliards que l'État consacre à France Télévisions, Radio France et France Média Monde. Enfin, au-delà des économies, le rapport valorise l'idée de souveraineté audiovisuelle. Il propose un label de contenu original français sur une réflexion sur la rémunération des journalistes et la clarification des cumuls de mandats et de fonctions. Voilà, c'était plus ou moins déjà les grandes lignes. Notamment, alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que je me rends compte au fur et à mesure du truc qu'ils ont peut-être ils savent pas comment ça fonctionne. Parce que t'as déjà France Info Télé, France 24, ils collaborent main à la main pour prendre la nuit.
Alors, ils collaborent et puis c'est quand même pas du tout le même principe. C'est-à-dire que France 24, en fait, c'est l'actualité notamment française, internationale, etc. France Info, c'est de l'actualité principalement nationale. C'est des chaînes qui, effectivement, collaborent, mais c'est quand même pas le même projet. Et puis, effectivement, pareil des autres propositions... je vois pas comment on peut mettre l'entièreté des programmes qui sont demandés par l'ARCOM, hein, parce qu'il y a des demandes tant de documentaires, tant d'informations, tant de divertissements, etc. Je vois pas mathématiquement, j'ai pas fait beaucoup de maths, hein, mais comment tu peux faire rentrer tout ce qu'il y a sur France 2 et France 5 en une seule chaîne? Quel est le bénéfice apporté? J'en sais rien, les deux chaînes fonctionnent extrêmement bien.
L'ARCOM, on
donc,
s'en fout,
voilà.
Martin.
Oui, c'est vrai, ça, j'avais oublié ce principe.
Non, mais il faut en tout cas se rendre compte à quel point c'est un rapport qui, il faut se souvenir, dès qu'il est sorti, a été décrié presque immédiatement.
Oui, et puis c'était assez peu. Alors j'en ai lu une partie, j'ai pas encore tout lu parce que faut être motivé.
T'as pas lu 550 pages?
Non, j'ai pas encore tout lu. J'ai lu
pourtant,
une bonne centaine.
Tu aimes la lecture, Martin.
Bah oui, voilà.
Ouais, mais c'est bon, j'ai lu pas mal les recommandations, etc. Alors soit il y a des choses qui sont typiquement impossibles à mettre en œuvre, soit qui sont déjà plus ou moins le cas. Bon, en fait, c'est dommage, c'est du vent, ça n'aboutira. Il y a deux trois trucs intéressants sur la gouvernance, mais enfin bon, c'est pas majeur, et donc on voit bien que voilà, c'était une opération de communication, et c'est dommage parce qu'effectivement il y a des choses à faire.
Exactement. Et ben merci pour avoir tranché, et puis on aura l'occasion d'en parler en détail, il me semble.
Moi j'en parlerai pas dans cette émission.
Voilà, pas dans cette émission. Voilà, oui, voilà, c'est là. Voilà, c'est ce qu'on
peut-être
s'était dit.
Plus tard.
Plus tard. La dernière de Colbert. La fin du Late Show de Stephen Colbert marque une véritable page qui se tourne dans la télévision américaine. Annoncée par CBS en juillet 2025, la fin de l'émission intervenait après 11 années à la barre du talk show et faisait écho à toutes ses défaites de 33 ans de talk show. Ça, c'est assez important de préciser. Mais surtout, cette dernière est assez importante parce qu'il faut se rappeler que le Colbert s'était fait viser par Donald Trump. Et ça, c'était il y a déjà 6 mois déjà.
Eh oui.
Ouais.
Il y a 6 mois, la CBS, elle vient, elle dit « Colbert, c'est pas bon, il y a Donald Trump qui nous dit non ». Ensuite, finalement, il est revenu parce que c'est à peu près chaud qu'un président demande la suppression d'une émission qui ne lui plaît pas. Et finalement, en tout cas, le fond du deal, si vous vous souvenez très très bien, vous avez suivi l'actualité, c'était que c'était la dernière saison, tout simplement, en fait. Voilà, c'était tout simplement juste cette dernière. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'argent... en jeu, notamment Colbert aussi, qui aimait pas trop la rédaction CBS, qui avait critiqué notamment un accord de 16 millions de dollars, justement passé entre la Paramount et justement Donald Trump. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment marquant, en tout cas, du tournant qu'on a dans cette décennie, et on espère ne pas avoir ça en France, même si on se dit que ça se pointe au bout du nez. Julien, une petite notatis?
Ouais, c'est pas moi qui bosse à chaque fois, c'est le Técos. Je crois qu'elle n'est pas venue ici pour souffrir. Hein.
C'est ça?
Non, je vous jure que je ne peux pas. Je vous jure
que je ne peux pas.
Moi non plus.
Mais je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok?
Il sort des tripes, c'est magnifique.
C'est vrai qu'elle était géniale en plus.
Elle a eu un coup de stress sur ce coup-là.
Quel est ton instinct, Pablo, qui t'a fait dire « Ah, Ça, c'est ce même.
C'est, en fait, c'est l'intonation avec le, un peu l'environnement. Et je crois que je me suis retapé récemment sur les réseaux l'extrait en entier. Et c'est vrai qu'en fait, il y a cette petite montée crescendo de stress. En... Attention, hein, eh, vous vous arrêtez hein. Et c'est vrai, quand t'as une phobie, je pense que c'est compliqué.
C'était, c'était quoi comme émission déjà?
Bah, je crois que c'est.
C'est pas tellement vrai. C'est mon choix.
C'est mon choix.
Ouais, ouais. Et je crois qu'il voulait l'exposer à une de ses phobies ou un truc comme ça.
C'est ça.
Non, arrêtez.
C'était des cafards, je crois.
Peut-être.
Oui, c'était un truc comme ça. C'est plus. Ouais,
c'est vrai que les cafards, c'est dégueulasse. Hein.
On en aura entendu parler de celle-ci quand même.
C'est une rêve qui a bientôt 10 ans aujourd'hui. Même si aujourd'hui, c'est, on l'a vu la même aujourd'hui bah, à Cannes avec Bolloré, je suis pas venu ici pour souffrir. C'était, il a fait littéralement la même avec.
C'est vrai.
Un peu marrant.
Le mot du jour aujourd'hui, c'est positif.
Vive la joie.
Le mot positif, ça vient du latin positivus, qui signifie poser, affirmer, affirmatif, comme Ultimedia. Autrement dit, être positif, ce n'est pas simplement voir le bon côté des choses, c'est d'abord affirmer une réalité. Choisir de poser une attention, une parole, une action, plutôt qu'une autre. Dans le vocabulaire courant, en tout cas, la positivité désigne plutôt une disposition d'esprit qui met en avant le potentiel, les solutions, les progrès, même quand la situation est compliquée. Aujourd'hui, beaucoup d'œils de veille médiatique auxquels on s'adonne de manière gracieuse donnent l'impression de baigner dans un monde en permanente urgence. Les conflits, les crises économiques et catastrophes climatiques, les scandales politiques sur les gros titres, c'est pas qu'une impression.
Je vois pas de quoi tu parles.
Je vois pas de quoi tu peux jouer.
Jamais entendu parler.
Je vois pas de quoi je parle non plus. Ce n'est pas qu'une impression, c'est le choix de beaucoup de rédactions, aussi bien dans Le Monde évidemment, mais en fait partout en fait. Donc même sur les sites de presse en ligne, de faire part belle à ce qui choque, frappe ou inquiète. Je veux dire, on parle littéralement de titres incitatifs en ce qui concerne notamment les titres d'articles. Le résultat, c'est un climat anxiogène, parfois même une sorte de fatigue mentale collective, où l'actualité semble se résumer à un flux interrompu de mauvaises nouvelles, au point de rendre presque naturel de croire que tout va mal. C'est vrai, mettez le 20h de France 2, c'est déjà ça. Face à cela, une partie du paysage médiatique a choisi de penser autrement. Alors, on a le média positif, on a Positivar, et on a évidemment la rubrique Feel Good du Monde aussi, qui propose justement, à la place de l'espoir, d'initiative, des avancées. C'est une démarche qui n'est pas évidemment de mentir, hein, si ça reste des faits, mais de rappeler qu'il existe aussi des récits de réussite, de solidarité et de progrès, souvent qui ne sont pas naturellement mis en avant par l'actualité standard. Et ce, d'ailleurs, depuis la fin du 19e siècle, si on se rend compte que déjà les Yellow Papers britanniques se reliaient que sur des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est petit point historique. Leur force, quand ils sont indépendants, ce n'est pas de se réduire au seul modèle de l'audience maximaliste. Il mise sur une forme d'exigence éditoriale et de cohérence où l'optimisme ne devient pas une pause, mais une posture responsable. Alors, pour un monde plus positif et une anxiété moins anxiogène, il faut donc pas forcément tout changer dans les médias. Il faut parfois changer la façon dont on parle entre nous, c'est extrêmement important. Discuter autour d'un café, au travail, en famille, autour d'un plateau, c'est ce qui a déjà été tenté, inventé et même réussi. Même, de toute façon, modestement, c'est déjà une manière, en tout cas, de déplacer l'attention. Le simple fait de poser la question « qu'est-ce qui a marché ?» même un tout petit peu, et de citer des exemples concrets plutôt que de se limiter aux pires gros titres, ça transforme le récit de ce que l'on se raconte. Alors, la positivité dans ce sens ne se résume pas à un message optimiste, c'est plus un choix actif, celui de laisser un peu plus de place dans nos écrans, dans nos conversations, à ce qui relie, inspire ou répare, c'est tout pour le mot. On va retrouver en tout cas en deuxième partie nos très chers chroniqueurs et évidemment nos charadeurs. Mais tout d'abord, on va s'écouter Aya de Outkast et on se retrouve tout après.
Radio Campus Lorraine, RCN.
Multimédia, deuxième partie, Julien Noatatis, maintenant.
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 Alors là,
c'est
Macron, oui, c'est l'intonation de Macron.
C'est le Mac.
C'est le spam du Macron.
Et là, c'est pas le coup de la poussière sous le tapis.
Non.
En vrai, vu l'écho, j'ai envie de dire bah, forum de Davos Forcher.
Très très vieux mais... Macron, c'est un très vieux.
C'est vrai.
Enfin, du coup, il était un très jeune.
Ministre d'économie ?
Je crois pas. Non, je crois qu'il était déjà président.
Non, j'ai pas d'amis.
Non,
on l'a déjà mis. Traverser la rue, non ?
Ça bien non, 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 on est sur une situation de mépris, hein, toujours.
Oui, ça. les gars.
Les gars.
Ceux qui sont je sais pas quoi et ceux qui ne sont rien. Hein.
Oui.
Oh le malade.
Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Qui ne sont rien.
C'est on ne jugera pas cette phrase pour des raisons de neutralité.
Exactement. Non, c'est catastrophique.
C'est une dingue.
Vous ne savez pas à quel point cette phrase, ça me rappelle cette phrase de gros colon qu'il a sortie. Il a interrompu un show. Hey, calmez-vous, un peu de respect.
Oui, putain,
écoutez, j'en parlais.
Il fallait en parler, ça aussi. Ouais. C'est mais du coup, vous estimez que vous avez réussi ? Parce que sinon, vous êtes rien, les gars.
Je ne sais pas.
Dans ce cas, je tiens à dire, je vais réussir cette transition, Martin.
Oh oui, allez, on commence par une petite devinette. Quelle personnalité médiatique parle d'écologisme religieux, de grands remplacements et s'insupporte quand il y a des manifs pour s'opposer à l'extrême droite ?
Pascal Praud.
Ouais, d'autres
idées. Moi, j'avais Zemmour, mais
c'est ça, Zemmour, tu dis journaliste. Après, c'est un peu compliqué comme ça.
Bon, alors, il y avait plusieurs réponses valables. Si je précise un peu ma question, cette personne a son rond de serviette à CNews. Ouais, bon, bah, du coup, oui, ça va pas vous aider non plus. Si je vous dis qu'elle a autant d'alcool dans le sang que Gérard Larcher a de bœuf bourguignon dans le ventre.
Comment elle s'appelle ? Isabelle.
C'est pas.
Non.
Elisabeth.
Elisabeth, j'ai oublié son nom de famille.
Lévy.
Lévy. Putain.
Elisabeth Lévy, la journaliste à laquelle on ne comprend qu'un mot sur deux. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs pour notre santé mentale. En 3 ans de multimédia, je ne lui avais toujours pas dédié de chronique. Et pourtant, c'est vous allez le voir, ça vaut le détour. Et là, on a eu le droit à une séquence lunaire sur CNews il y a quelques semaines. Vous aurez raison de me dire, oh, c'est pas nouveau, Martin, il faudrait quand même penser à changer de sujet un jour ou l'autre. Mais là, Elisabeth Lévy a tenté, tenez-vous bien, de critiquer le grand patron, Vincent Bolloré, le Big B, comme on l'appelle ici, celui qui collectionne les médias comme on collectionne collectionne les cartes Pokémon. Vincent Bolloré qui a donc pris le contrôle de la maison d'édition Grasset depuis 2023 suite au rachat du groupe Lagardère. Encore une nouvelle carte dans le Pokémédia. Courage Vincent, t'as bientôt fini ta collection. Et si Grasset fait autant parler, c'est parce que son directeur, Olivier Nora, a été licencié par Bolloré, remplacé par un de ses proches, Jean-Christophe Thierry de Bercegol de Moulins. Deux particules, déjà ça sent la noblesse à plein nez. Et bingo, c'est une famille de la vieille noblesse qui descend des Capétiens. Lui a fait sa scolarité dans le privé, à Neuilly, à Sciences Po et à l'ENA. Le 4 à la suite, bravo, le CV est parfait pour rejoindre les grandes sphères de pouvoir. Alors reprenons. Qu'a-t-on pu bien reprocher à Olivier Nora pour qu'il se fasse licencier? Alors, il y a plusieurs explications avancées pour le moment. Le Canard Enchaîné qui explique qu'il s'agirait d'un contentieux sur la date de publication du livre de Boilem Sansal. Bolloré souhaitait le publier dès maintenant et pas attendre octobre après la rentrée littéraire comme le souhaitait Olivier Nora. Pour le Nouvel Obs, Nora aurait refusé de publier les prochains livres d'un essayiste proche de la sphère catholique, Nicolas Dia. Dans les deux cas, Bolloré a tenté donc de se substituer au directeur de la maison d'édition. Un licenciement qui est mal passé à Grasset. Au moins 130 auteurs ont décidé de claquer la porte en protestation, dont Virginie Despentes et Frédéric Becbédé. Et pour tenter de faire passer la pilule, Bolloré a écrit une tribune dans le JDD. Pratique, hein, c'est une autre carte de sa collection des médias qu'il a. Pour lui, c'est à cause des contre-performances économiques. D'ailleurs, Bolloré a bien précisé dans la tribune qu'il n'a aucune fonction au sein du groupe Hachette qui possède Grasset. C'est bien de le préciser parce qu'on aurait pu s'y méprendre. Pas du tout interventionniste, le gars. Et là, vous allez me dire, Martin, tu nous avais dit que tu nous allais parler d'Elisabeth Lévy. Et bien justement, le 20 avril dernier, sur le plateau de Pascal Praud, sur CNews, un autre carte du Pokémédia, on tente de désamorcer cette histoire. On parle d'une caste médiatique dont le service public ne parlerait que de cette affaire pour cracher sur Bolloré. CNews, eux, titre « Affaire Grasset, de point, une tempête dans un verre d'eau ». Bon, alors ils en ont parlé pendant une demi-heure ce matin-là sur CNews, donc ça doit être un très très gros verre d'eau quand même. Certainement plus proche de la cruche. On commence à en J'ai Pablo, mais enfin, j'essaie n'importe quoi. Bon, enfin, Elisabeth Lévy, donc elle tente de donner son opinion sur la question.
Quand 115 auteurs, quand ils décident de partir
parce que... Et pourquoi ils partent?
Parce qu'ils ont une relation particulière.
Non. Mais non.
Alors, j'arrêtais. Moi, je crois que l'édition, ça n'est pas exactement une industrie comme
Elisabeth,
les autres.
Non.
Mais non, c'est pas ça. À quoi ça sert de donner ton avis s'il va pas dans mon sens? C'est insupportable. Moi, je vais donner la réponse qui m'arrange.
Ils partent comme les journalistes d'ITélé sont partis il y a 10 ans, par panurgisme. Voilà pourquoi ils partent. Puis ils partent, c'est aussi bête que ça.
Moi, j'en connais.
C'est-à-dire que moi, j'ai évidemment...
Mais oui, enfin, reçu-toi Pascal, il te reste au coin de la bouche. La preuve, quand Bolloré a racheté Italie, qui a été renommé CNews, il n'y a pas du tout de changement éditorial derrière. Donc là, bah, Elisabeth Lévy, elle s'insurge.
Donc, si je ne suis pas d'accord avec vous, je suis malhonnête. Je suis désolé, j'ai le droit de ne pas dire les choses comme...
Mais pardonnez-moi.
Moi, je suis désolé, ça ne m'a pas plu, j'ai quand même le droit.
Mais bien sûr, vous avez le droit, mais on a le droit aussi de vous répondre.
Mais bien sûr qu'elle a le droit. Et d'ailleurs, Elisabeth Lévy n'a plus jamais remis les pieds sur un plateau de CNews depuis ce jour.
CNews, la liberté d'expression n'a pas de prix.
Voilà, à vous de juger.
Arrête, c'est vrai?
Bah oui. Et donc, bah on la voit plus, hein, depuis. Hein, non, mais il faut quand même. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, Elisabeth Lévy a réussi à être plus nuancée que tout le reste du plateau. Et Bolloré a pété un plomb. Elle a mis quand même de l'eau dans son vin. Non, ça, toujours pas. Je trouve quand même que ça relève de l'exploit. Ça fait 3 ans qu'on critique dans cette émission les méthodes et la mainmise dans les médias de quelques milliardaires dont Bolloré. Et là, la machine à propagande va tellement loin que même les meilleurs propagandistes comme Elisabeth Suze, Lévy, pardon, décidément, arrivent à se faire virer. Là, je crois que définitivement, la boucle est bouclée.
Hein. Oh là, incroyable. Wow. Ce qui fait plus rire, c'est qu'au moment où elle se défend, elle me dit « Mais j'en connais un !» Bah évidemment, elle en connaît un. La CNews, excitez-les, évidemment qu'elle en connaît un. Mais
oh là là.
Est-ce qu'elle n'était pas consciente d'où elle a mis les pieds?
Ah mais je.
Est-ce
là
qu'elle
je...
était consciente? Est-ce qu'elle a vu la gueule et dit oh génial cette gauche ici? Est-ce qu'elle s'est dit ça?
Je pense qu'elle s'est pas dit tiens on va me dégager, c'est bon, j'ai quand même le droit de dire un petit truc sur la tribune qu'a fait Vincent Bolloré.
Après des fois quand on est bourré on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on fait.
C'est possible. À 9h30 du matin elle avait déjà je pense un bon coup dans le nez.
Pas les vidéos claires. Non mais wesh. Je suis choqué.
Exactement.
C'est
un après, il y a peut-être un monde où c'est elle qui a pas voulu revenir.
Mm-hmm. Que... Oui, pas. Oui. Alors, aux dernières infos, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Hein, voilà.
Écoutez.
Et bizarrement, voilà, elle a critiqué la machine Bolloré et depuis, bah, elle a disparu. Mais juste une petite phrase. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous avez quasiment l'entièreté. Là, je vous ai diffusé l'entièreté. C'est quand même pas très violent, hein, quand même. Hein. Donc la cancel culture, etc. Voilà.
De toute façon, on est confiné, on ne va pas quitter le paquebot Bolloré parce que on va rester cette fois, on va aller plus vers le festival de Cannes.
Oui, alors nous ne sommes pas tout à fait dans la sphère Bolloré, on va essayer de s'en écarter un petit peu. Cela étant, on va quand même aller au festival de Cannes, effectivement, donc un festival qui a lieu tous les ans, qui est un superbe moment. En tout cas, pour cette année, on avait pas mal de petites pépites. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire une première charade. Mon premier, et là, on commence plutôt simple, la 10e lettre de l'alphabet. Je vous laisse quelques instants pour compter. Voilà, vous me dites quand vous l'avez.
C'est bon.
Mon deuxième est une position très classique du Kama Sutra dans laquelle l'un des partenaires est dos à l'autre. Ce nom, eh ben, vous l'abrégez de manière un petit peu beauf et vous obtenez cette deuxième.
J'ai pas non plus.
Vous l'avez pas ? Ok, on y reviendra. Mon dernier est un adjectif caractérisant une personne dont on ne parvient pas à déceler les arrière-pensées. Comment appelle-t-on quelqu'un comme
mais
ça ?
Mais c'est pas évident aujourd'hui.
C'est pas évident.
C'est pas évident.
Ok, je vous le refais. Mon premier est donc la 10e lettre de l'alphabet.
Celle-là, on l'a.
Ok. Deuxième est une position très classique du Kama Sutra dans laquelle un des partenaires est dos à l'autre. Vous voyez un petit peu ? Sans doute, peut-être pas. Ce nom, bah, vous l'abrégez de manière un petit peu beauf. Vous comprendrez après. Mon dernier est un adjectif caractérisant une personne dont on ne parvient pas à déceler les arrière-pensées. Joris, en technique, est-ce que tu l'as ? Ce que je suis en train de dire, pas du tout. Ok, je vais vous donner la réponse. Mon tout était au Festival de Cannes pour promouvoir un film dans lequel il a su faire la distinction entre l'acteur et le personnage.
Lelouch !
Eh oui, c'est Gilles Lelouch.
Ah oui !
Première lettre de l'alphabet, c'est le G. Mon deuxième est une position très classique du Kama Sutra. Dos à l'autre, c'est la levrette. Vous l'abrégez un peu de manière beauf, ça fait la le-le. Gilles Le. Et une personne dont on n'arrive pas à déceler les arrière-pensées, c'est quelqu'un d'un peu louche. Et effectivement.
Mais le-le, du coup, ça ferait c'est Gilles ça. Le-le-louche.
Gilles Le-le-louche. C'est une charade, Julien, c'est le concept.
Ah, Gilles Le-le-louche.
Oui.
Ah.
Et il était au festival pour promouvoir Moulin. De Laszlo Nemes qui était donc en compétition et en fait il a été sur enfin on lui a posé une question pendant une conférence de presse, je pense que vous avez vu ce petit passage qu'est-ce qu'il pensait de l'état actuel de la France et quel intérêt de faire un film aussi engagé et elle est pas un petit peu orientée votre question vous
non, alors, ça, moi j'ai ça, écouté bon. L'extrait
moi aussi j'ai écouté l'extrait
et en vrai de vrai je prends un regard critique
la question est
hyper orientée elle est très mal posée elle est très partisane
Bah
à un moment son film il a pour but de fédérer les gens autour d'une cause si tu vas mettre les gens à dos bah forcément moi j'aurais répondu quelque chose du même genre
Il reste quand même qu'il a pointé comme qui était surpris que film sur la résistance bon pourquoi tu parles de la résistance
bah ouais non mais en soi la question était hyper mal posée du journalisme il mais avait clairement dit ouais donc il y a l'ERN en gros voilà et il y a LFI de l'autre côté quoi et du coup c'était complètement débile de nommer des partis politiques comme ça. L'idée c'était plus de mettre dans le contexte en mode bah voilà quel intérêt aujourd'hui de parler d'un résistant dans un contexte géopolitique plutôt compliqué en tout cas voilà en plus j'ai vu partout sur France Inter et tout il a ramé à expliquer à répondre à toutes les questions qu'on lui posait, il était comme ça sur son
Est-ce que t'as une deuxième charade très très rapide
Ouais, je vous en fais une autre. Mon premier est le prénom du Big B. Commencez à le connaître. Mon deuxième est, attention, 8e lettre de l'alphabet. Pareil, je vous laisse compter. Mon dernier est le nom plus soutenu utilisé pour nommer le caca.
Alors je ne m'attendais pas à ça.
Vous l'avez peut-être. Ok. Mon tout estime que pour construire une carrière dans le cinéma, il faut avant tout savoir refuser des rôles.
Je l'ai.
Tu l'as ?
C'est Cassel. C'est Vincent Cassel.
C'est Vincent Cassel.
Ah merde, je me suis trompé de lettre, moi.
Mais les gars, vous ne savez pas compter.
On ne sait pas compter, non.
Donc le prénom du Big B, c'est Vincent Bolloré. Mon deuxième, c'est la 8e lettre de l'alphabet, le K. En fait, et le nom le plus soutenu pour nommer le caca, c'est la selle.
C'est pas du tout le.
C'est moi qui sais pas compter.
Non, c'est toi qui ne sais pas compter.
Admettons, c'est le cas.
J'avoue que le cas, j'ai pas trouvé aussi.
Mon tout estime que construire une carrière dans le cinéma, il faut avant tout savoir refuser des rôles. Effectivement, Vincent Cassel avait été interviewé avec Isabelle Huppert et Pierre Niney en disant que, des fois, si le rôle était pas ouf, même si on était bien payé, il fallait le refuser. Un luxe pour un acteur,
c'est vrai.
Évidemment.
Mais en tout cas, merci énormément Pablo pour cette chronique. Merci Julien pour tes notatistes.
Avec plaisir.
Évidemment, on mentionne Mathis. Remercie Martin pour ta chronique.
Avec plaisir.
En tout cas, c'est tout pour la huitième et avant-dernière de Multimédia.
Tristoun.
Merci de nous avoir capté sur RCN et RCL. Merci, merci à Joris à la technique. Évidemment. Et vous, pour nous avoir suivis. On vous dit à la prochaine pour la dernière de la saison. Et on vous dit au revoir.
Bisous.
Bisous.
Salut.